1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann, l'émission Le Grand Tour sur Canal B, un peu de musique, beaucoup d'infoconcerts et aussi du cinéma d'animation et des bouquins puisqu'on est mercredi et qu'on retrouvera tout à l'heure Soisig Le Bay qui nous parlera d'un roman graphique Vers la violence de Blandine Rinquel au texte et de Marguerite Boulanger au dessin paru chez l'Iconoclaste, ce sera dans Bouquet Garni tout à l'heure. On retrouvera Romane Tulliouzet qui nous parlera de Ubu Roi, son court-métrage d'animation qui est proposé pendant le Festival National du Film d'Animation qui se déroule à Rennes jusqu'au 12 avril. Et puis on ira au Festival Fox Blues de Binic qui se déroule les 24, 25 et 26 juillet prochains. On aura une bonne rasade de la programmation entre rock'n'roll d'Australie et d'ailleurs. Et puis on écoutera deux nouveautés pour débuter l'émission. Notre disque d'or de la semaine, c'est le musicien Tiwayo, qu'on surnomme le jeune vieux, un musicien qui a commencé sa carrière dans les couloirs du métro parisien et qui a pu voyager à travers le monde aux États-Unis, là d'où viennent ses influences entre soul et blues. Et puis on écoutera aussi dans un instant une musique d'Australie, mais qui n'est pas spécifiquement australienne quand on l'écoute comme ça. Un mélange de soul, d'afrobeat, de musique cinématographique, c'est Owelu Dreamhouse. Mais on commence directement avec ce morceau tout à fait adapté au climat temporaire du jour, en tout cas Sunshine Lady par Tiwayo sur son troisième album Outsider. C'est notre disque d'or de la semaine. Bonne émission.
sunshine lady. Yeah, such a chance to live with you, sunshine girl.
The only way.
On était en Australie à l'instant, ça ne se sentait peut-être pas, mais on était à Melbourne avec Owelu Dream House, avec la chanteuse Nkechi Anele et puis le multi-instrumentiste Nick Ryan Glennie qui nous propose une rencontre entre rhythm and blues années 90, ambiance ouest africaine et puis afro-funk. Tout ça est très très réussi sur cet album. Il y a des morceaux un petit peu plus lisses que j'aime moins, mais là on entendait un des très 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 bon morceau de cet album. À suivre, une rencontre avec une réalisatrice de court-métrage d'animation à retrouver cette semaine à Rennes pendant le Festival National du Film d'Animation. Dans la page culture du Grand Tour aujourd'hui, l'émission que vous écoutez en ce moment sur Canal B, je suis content de recevoir Roman Tully-Houzet. Bonjour Roman.
Bonjour.
Qui va nous parler de Uburoi, en tout cas de la première page d'Uburoi, puisque ce film qui est montré ici dans la compétition 4 naît quelque part. Vous avez l'occasion de le voir à plusieurs reprises jusqu'à la fin du Festival National du Film d'Animation. Jeudi 9 avril au TNB, à la salle Jouvet, samedi 11 avril à l'Arvor. C'est la compétition née quelque part. Alors, on ne sait pas, je ne sais pas vraiment où il est né, le père Ubu, le roi Ubu. Mais en tout cas, on va voir en 2 minutes et 22 secondes qu'il va se passer déjà beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, on va revenir un petit peu à la genèse avant de commencer à parler du film. Quand est-ce que tu as su, Roman, que tu allais te diriger vers le cinéma d'animation ?
Waouh, je pense que ça fait quand même assez longtemps, mais ce n'est pas quelque chose. Ouais, ça s'est fait assez naturellement en fait, voilà, je suis arrivée dedans, j'ai suivi des gens qui voulaient faire ça et comme je suis un peu influençable, j'ai fait comme eux je pense aussi.
À la base un grand goût pour le dessin aussi.
Oui, c'est ça aussi, oui, et puis forcément le film, l'animation, comme beaucoup d'enfants maintenant.
Ça se ressent pas mal le dessin parce qu'évidemment la technique est toujours particulière dans un film d'animation. Ici ce sont des objets et papier découpé, surtout du papier.
Oui, alors moi je viens plutôt de la stop motion à la base, donc vraiment les marionnettes comme Wallace et Gromit. Et pour ce projet, comme il n'y avait pas forcément le temps et aussi le budget d'avoir plein de marionnettes dans des immenses décors, donc j'ai décidé de faire du papier découpé qui est un peu plus simple et qui est aussi intéressant pour la mise en scène, je trouve.
Avant de se pencher un peu plus sur ce court et intense moment d'animation, savoir le procédé en fait qui a été à l'œuvre pour la production, c'est un appel à projet ?
Oui, c'est ça, à la base c'est un appel à projet qui s'appelle Première Page et donc qui vise à mettre en avant des jeunes réalisateurs qui sortent d'école et qui donc adaptent des textes, des premières pages de la littérature française pour un peu donner envie de lire et voilà, et faire leur premier film.
Alors, il y a eu deux saisons, Jacques le Fataliste de Diderot, Pantagruel de Rabelais, Le Horla de Maupassant, des œuvres, oui, du patrimoine, véritablement, qu'on étudie souvent au collège, d'ailleurs. C'est peut-être pas le cas pour Uburoi, je sais pas. Comment tu as choisi celui-ci, toi ?
Bah, c'est pour ça, à la base, moi, je voulais vraiment adapter du théâtre, parce que c'est des choses que si on va pas au théâtre, en fait, c'est des pièces qu'on n'aura jamais l'occasion de voir, et c'est pas forcément simple à lire quand on n'a pas l'habitude. Donc, je voulais, pourtant, une pièce que j'aime beaucoup et que j'ai jamais vue. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, du coup, de faire ma propre représentation et, entre guillemets, de le mettre en scène comme j'ai envie, quoi.
On est en 1896 hein, quand Uburoi apparaît et pourtant c'est très très moderne et puis ça reste encore d'actualité parce que vous remplacez Ubu par Donald et ça marche très bien aussi, Donald Roy. Qu'est-ce qui t'a amusé en fait dans ce texte-là et pour te l'approprier sur cette première page ?
Ce qui m'a intéressé c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout Uburoi parce que c'est vraiment un texte très grossier avec des personnages vraiment méchants. Et donc moi en le lisant j'aimais bien et je me suis dit c'est bizarre, pourquoi moi j'aime bien ? Est-ce que je suis aussi méchante qu'eux, quoi. Et en fait, je pense que c'est un peu une part de mauvaise foi qui est en chacun de nous, quoi. Des fois, on est jaloux, on a envie de taper des gens, c'est pas gentil, c'est pas bien, mais c'est quand même là, quoi. Donc, je voulais un peu mettre en avant ça et le désamorcer, en rire et montrer qu'on a tous un peu ça, et même si on n'est pas tous des petits Donald.
Non, non, ou des gros Ubu, parce que Ubu, il aime bien manger, hein. C'est ce qu'on voit dès le début, en fait, de ce film d'animation. Tu te l'as imaginé facilement. Il y a déjà beaucoup de représentations, évidemment, de Ubu, avec notamment cette spirale, là, comme ça. On connaît bien ici à Rennes, puisque la salle l'Ubu lui est dédiée. Et puis, il est né à Rennes, finalement, le père Ubu, puisque c'est un prof d'Alfred Jarry qui l'a inspiré pour créer le personnage. T'avais beaucoup de représentations existantes. Il a fallu s'en détacher un petit peu.
Bah, c'est ça qui était le plus dur, parce que, par exemple, il y a des personnages comme la mère Ubu, qui est un petit peu moins iconique quoi, dans sa représentation. Donc là, j'ai essayé de m'en détacher tout en gardant un peu l'image qu'on avait du Père Ubu, cette espèce de forme de poire. Voilà. Donc c'était un jeu entre les deux, quoi.
Même si y a un côté sombre dans le personnage, évidemment, là, c'est éclatant de couleurs ce que tu as fait, parce que c'est vrai que le langage est coloré et fleuri aussi. On est dans un paysage bucolique. Est-ce que tu peux nous décrire les premières étapes en fait, de la création du décor et puis de l'univers que tu as apporté à cet Uburois ?
Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes célèbres qui sont appropriés cet univers pour faire leurs propres images. Et ben moi, je prétends pas être un peintre célèbre, donc il y avait un peu la pression. Donc j'ai décidé plutôt de m'éloigner de ce qui avait déjà été fait et de partir surtout dans un univers un peu coloré, plus rond, plus actuel aussi, pour pas marcher sur leur plate-bande, quoi. Donc je me suis plutôt aventurée de ce côté-là, du côté du papier découpé, qui amène une esthétique, parce que comme on doit tout découper, c'est forcément plus simple dans les formes, dans les couleurs. Et donc après... J'ai une chef décoratrice qui m'a beaucoup aidée aussi pour les décors. Et ça a été des allers-retours, des tests, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, découper et puis coller. Et ça fait des belles choses.
Des belles choses qu'on va évoquer avec toi, Roman. Et je m'intéresse au générique de ce film quand même. On te voit à la réalisation, certes, au scénario aussi, avec un peu d'aide d'Alfred Jarrick quand même. Et puis au graphisme, tu es vraiment sur plusieurs fronts en même temps.
Alors pour cet appel à projet, c'est des films qu'on réalise majoritairement seuls. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu d'aide, par exemple, moi j'en ai pour les décors. On va avoir un compositeur ou une compositrice qui va faire la musique, quelqu'un qui va s'occuper du son. Mais en majeure partie, c'est vraiment de A à Z, nous qui réalisons tout. Ce qui n'est pas le cas sur la plupart des films où il y a souvent des grosses équipes. C'est pour ça que le film ne fait que 2 minutes.
2 minutes d'un pique-nique qui va se transformer en déclaration de guerre, pratiquement, déjà, parce qu'il est très très violent, Ubu. Tu l'as imaginé comment, cette montagne comme ça qu'on voit au début, de loin, puis on s'en approche de plus en plus? C'est vraiment le décor, ça, une nappe de pique-nique et puis une montagne en fait.
Oui, parce que comme il n'y a que 2 minutes, il faut vraiment faire passer des images qui sont très, très simples, très compréhensibles. Donc là on voit la montagne, on a envie d'arriver en haut de la montagne. Et finalement, au haut de la montagne, on se rend compte que le haut de la montagne, il n'est pas forcément plus beau que la petite prairie à côté, quoi. Donc voilà, c'est vraiment l'image qui parle, quoi.
Alors la musique est de Laetitia Pinsanel-Garic, compositrice qui travaille pas mal avec le cinéma. J'ai choisi d'aller ailleurs, en fait, de nous faire entendre peut-être une chanson de Tikan Egarn qui est tout à fait dans le sujet de ce film Uburois que nous propose Roman Tulliouzet. On le retrouve, ce film. Il était montré ce mercredi après-midi. C'est trop tard, alors vous écoutez l'émission. Mais bien sûr, vous avez la possibilité de le retrouver jeudi et puis samedi pendant le festival du film d'animation ici à Rennes jusqu'au 12 avril.
Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le Père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pouf pan avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un grand cul, le Père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, un tout à cul, merde dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le Père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu.
Tikan Egarn, à l'instant, le Père Ubu, on parle aujourd'hui dans Le Grand Tout avec une réalisatrice de cinéma invitée au Festival National du Film d'Animation. C'est Roman Tulliouzet sur Uburois, une première page que vous avez peut-être pu voir sur le site de France TV. C'est encore disponible, je mettrai le lien évidemment puisque c'est une série de 2x11 épisodes de saison où on demande à des jeunes réalisateurs et réalisatrices d'animation de se pencher sur des pages personnages classiques de la littérature française. Peut-être, Roman, tu as choisi ce qui me paraît être l'une des options les plus intéressantes en termes de texte déjà à l'origine, parce que tu as eu beaucoup de liberté aussi dessus, sans doute, c'est ça qui t'a plu. On revient à la fabrication d'un cours, pourtant, qui fait 2 minutes et 22 secondes, pour être très précis, et pourtant, il a fallu des mois pour le faire.
Oui, c'est ça. Au total, ça a pris 6 mois pour fabriquer le film. Donc, au début, ça va être du scénario, de l'écriture. Après, on passe par l'animatique, qui est une étape où on va faire comme un storyboard, on va dessiner chaque plan assez précisément, parce que comme l'animation ça coûte cher, on ne peut pas se permettre d'improviser et de se dire on va voir au montage qu'est-ce qui se passe. Non, le plan il fait une certaine durée et on anime cette durée pour optimiser le temps qu'on a, quoi. Et donc après j'ai fabriqué les décors, j'ai fabriqué toutes les marionnettes. Donc il faut savoir que normalement en papier découpé c'est assez long de fabriquer les marionnettes et les décors à la main. Donc on se dit on va peut-être essayer de limiter les plans, de réutiliser des éléments pour que ce soit moins long à faire, quoi. Et sauf que moi j'ai vu les choses en grand, donc il y a une cinquantaine de plans pour un film de 2 minutes, c'est assez énorme. Donc j'ai dû fabriquer environ 150 marionnettes, ce qui est beaucoup, ou 100, je sais plus, mais ça fait vraiment beaucoup de travail, un petit peu trop. Et donc j'ai tout fait à la main, j'ai fabriqué chaque personnage, je les ai peints, je les ai découpés. Et c'est pareil pour les décors, ça va être des éléments qui sont peints, qui sont découpés, et qui sont un peu aussi retravaillés à l'ordinateur pour gagner du temps. Parfois c'est plus simple de réutiliser des éléments. Et après j'ai tourné sur fond vert les animations, après j'ai mis sur les décors. J'ai rajouté 2-3 trucs sur ordinateur, mais globalement ça reste assez simple comme processus.
On est en droit de se demander, alors évidemment, Roman, est-ce que tu aurais envie d'adapter toute l'œuvre Uburoa d'Alfred Jarry? Je crois que j'ai ma réponse, mais est-ce que tu pourrais faire ça?
En fait, moi ce que je voulais en adaptant la première page, c'était aussi saisir toute l'essence de l'œuvre. Et évidemment, en 2 minutes, on ne peut pas avoir tout le texte, on ne peut pas avoir toutes les joies des dialogues, mais déjà j'ai l'impression que j'ai un petit peu résumé de façon assez simple, l'histoire, l'envol, la chute des personnages. Et donc je pense qu'il n'y a pas forcément la nécessité d'en faire un film beaucoup plus long, quoi. Mais c'est vrai qu'après j'aime beaucoup le duo. Et s'il pouvait revenir dans d'autres histoires, ça me ferait plaisir, mais c'est pas forcément
un objectif, le but. Ouais. Bon, il y a eu avant ce premier court-métrage d'animation en solo et pro, hein, d'ailleurs, c'est dans la catégorie pro qu'il est montré ici au Festival National du Film d'Animation à Rennes. Il y a eu un travail plus collectif avec Babette et l'Oiseau, ça c'était en 2022. C'était pas la même technique?
C'est ça, c'était de la stop-motion plus classique, donc avec des marionnettes qui étaient fabriquées en volume, comme dans Wallace et Gromit par exemple. Donc c'était un film étudiant, donc souvent les films étudiants on les fait à plusieurs. Parce que déjà on apprend à travailler en collaboration et puis comme ça on peut aussi faire des choses plus ambitieuses.
Et la différence entre travailler en collectif comme ça, en mini collectif et puis en plus petit collectif finalement, parce que bon t'étais pas toute seule vraiment sur Uburoa mais principalement t'étais toi responsable, c'est comment la différence?
Moi j'aime beaucoup le travail collaboratif et faire des choses avec les gens, mais ça peut aussi parfois être source de beaucoup de conflits, surtout quand on travaille avec ses amis, donc je trouve que des fois c'est bien aussi de travailler un petit peu tout seul, faut doser, quoi.
Tu proposes ce film-là, on se doute bien que avec le temps qu'il faut pour réaliser un film d'animation, bon, une fois qu'il est fini, on est ultra content de l'avoir fini, mais on pense déjà à la suite, et on a déjà commencé à penser à la suite avant la fin du précédent, je pense, mais là, tu en es où sur ce qui va se passer après?
Là, je suis en train d'écrire mon prochain projet, du coup, c'est encore au début, donc c'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire le scénario, de faire les premiers dessins pour après essayer de trouver des producteurs, des financements. Et ça prend du temps, mais un jour il sortira.
Est-ce que tu espères aussi bénéficier de, d'un coup de projecteur et d'un accompagnement comme il y a pu avoir sur Première Page, avec des résidences, des choses comme ça?
Oui, bien sûr. Bah, c'est le but après quand on écrit un dossier, c'est on va chercher partout l'argent et les moyens, les possibilités qu'on peut trouver, quoi. Voilà. Surtout que moi, je viens des Pays de la Loire et la région a coupé les financements, donc je vais essayer d'aller ailleurs.
On sera heureux de t'accueillir ici à Rennes, hein, qui est un pôle de l'animation, évidemment. Tu penses à des longs métrages, pourquoi pas, ou tu vas rester sur du court pour l'instant?
Pour l'instant, j'aimerais rester sur du court, voire de la série, parce que je pense que notre génération regarde pas mal de séries et c'est quelque chose qui nous parle pas mal. C'est vrai qu'on dit souvent que tout réalisateur rêve de faire un long métrage, mais en fait, c'est beaucoup d'argent, faut déjà être connu. Enfin, c'est tellement de contraintes et surtout j'imagine qu'il faut faire beaucoup de compromis pour pouvoir passer en salle. Et moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire dans mon travail. Donc je préfère garder une certaine liberté, quitte à être sur des formats plus petits.
On suivra en tout cas l'évolution du travail de Roman Chidiouze. Ça va dans cette ligne-là. Moi, je suis preneur en tout cas. Merci beaucoup.
Si tu veux le pitch du prochain.
Ouais.
Ok.
Tu l'as ?
Ouais, déjà.
Bah, c'est quoi ?
Alors, du coup, c'est l'histoire. C'est une comédie romantique qui suit l'histoire de deux militantes antimilitaristes pendant une apocalypse de zombies. Donc, ça va être intense et sportif.
Ah bah on attend ça avec impatience. Merci Roman, et puis bonne chance pour la compétition, parce que oui, il y a aussi cet aspect-là. On n'est pas là que pour la compétition, mais il y en a une, et puis il y a le plaisir aussi de rencontrer les camarades et puis les collègues, ceux qui travaillent le même matériau, la même façon de raconter des histoires, et pourtant elles sont toutes différentes, ces manières-là. Tu as vu les autres films présents dans la compétition numéro 4 ?
Oui, j'en ai vu la moitié, mais je vais voir l'autre moitié pendant la séance.
Bah, tu verras ça pendant la séance, évidemment. Il en reste deux, jeudi 9 avril à 14h au TNB Salle Jouvet, samedi 11 avril à l'Arvor à la salle 5, et puis vous verrez le palmarès à l'issue, la fin de cette édition du Festival National du Film d'Animation. Ça termine le 12. Toutes les infos, je vous le rappelle, sur le site festival-film-animation.fr. Et on termine en musique à nouveau avec une petite sélection de ma part. Je me suis permis de vous proposer une adaptation de la musique qu'avait en tête Alfred Jarry, apparemment, lorsqu'il a édité en 1896 Uburoi. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu il avait des problèmes d'argent, mais on écoute l'adaptation et l'imagination par Guigou Chenevier et Denis Bernard Roland. Le titre Venceslas, le morceau extrait de l'album Le Diapason du Père Ubu. Ça a été édité par un label rennais, un polisson. Ubu est partout à Rennes, c'est sûr. Merci Roman. Comme tous les mercredis, ou presque, on retrouve Soisig Le Bay dans Le Grand Tout pour nous parler bouquins. Bonjour Soisig.
Bonjour Yann.
Tu nous parles aujourd'hui de Vers la violence, un roman graphique au texte de Blandine Rinkel, au dessin Marguerite Boulanger. C'est paru chez l'Iconoclaste et ça a été Grand Prix d'Électrice de Elle.
Le premier de nous deux aura une tapette. Alors j'essaie de ne pas être celle qui rira. Je fixe Gérard avec toute l'intensité dont une fillette de 6 ans est capable. Et en secret, oui, en un terrible secret, je souhaite sa perte. Il me tient par le menton et j'ai peur de mourir. Au fond des yeux de mon père, je vois de la tendresse qui ne me protège de rien. Lou nous raconte son père. Terrifiant, formidable, incroyable, un ogre. Policier, il est souvent absent. Au retour, il raconte des histoires extraordinaires, des batailles homériques, des tempêtes extravagantes. Et Lou est fasciné. Un pacte imaginaire les lie, pacte dont Lou ne se déliera jamais tout à fait. Gérard est incroyable, hein ? Il est trop joyeux, trop expansif, trop exigeant. Elle admire son père, et derrière l'admiration, une inquiétude sourde ne quitte jamais Lou. Il est violent. Il exalte des qualités viriles. Elle ne doit jamais pleurer. Jamais manifester de faiblesse, elle doit se préparer à se battre. Elle grandit entre peur et loyauté. Elle a 6 ans au début de l'album. Son père est né en 1954, un baby-boomer qui a cru longtemps la règle des 4 P. Paix, prospérité, plein emploi, progrès. Le temps a fissuré sa toute-puissance, il s'est senti en danger. Alors il affabule, il invente, il transforme et il ment. Il cache aussi sa vie d'avant, sa vie d'avant-elle. Un mariage pulvérisé par un accident de bateau. Une femme, 2 enfants qui sont morts. Pas sa faute, jamais sa faute. Et pourtant, le souvenir le ronge. Il refuse que Lou fasse de la danse, qu'elle ait des amis. Heureusement, elle a Ardan, un chien, son confident, jusqu'à l'adolescence. À 16 ans, elle se lance à corps perdu dans la danse, comme si c'était de la boxe, dit-elle. Danseuse professionnelle, un sport de combat. Dix ans plus tard, elle se rend compte de son incapacité à avoir des relations sexuelles ou amoureuses sans rapport de force et multiplie aventures sans lendemain, décevantes, toutes, jusqu'à sa rencontre avec Raphaël qui lui enseigne la douceur. Son père est malade, pauvre homme diminué, chétif, dans son lit d'hôpital. Elle lui écrit une longue lettre d'adieu sans complaisance. Elle ira à son enterrement, mais ne le reverra pas vivant. Vers la violence est le récit d'une relation filiale complexe, le récit d'un machisme viril, morbide. Et l'on s'interroge sur le surgissement de la violence au sein des familles, la toute-puissance des hommes qui se cogne parfois à la résistance des plus faibles. Comment vivre avec un père pareil, comment grandir sans rancune, comment l'art aussi a sauvé Lou, ce texte nous le raconte. Avant d'être un roman graphique illustré par Marguerite Boulanger, il s'agissait d'un non moins formidable roman tout court de Blandine Rinkel. Et il faut saluer la finesse des illustrations, le découpage du récit et l'expressivité du trait, l'humour subtil des dessins qui déboulonnent la dureté du propos. Concerné ou pas, on ne peut qu'être ébranlé par ce récit.
Merci Soisig pour ce roman graphique qui a l'air assez dur mais classe.
Mais dur et un peu drôle et saisissant et beau. Il a plein de qualités, vraiment.
Blandine Rinkel, Marguerite Boulanger, c'est paru aux éditions L'Iconoclaste et ça a été Grand Prix des Lectrices de Elle. Merci Soisig et à bientôt pour une nouvelle chronique bouquin dans Le Grand Tout. L'illustration musicale de ce bouquet garni numéro 21 proposé par Soisy Globay était due à Chaton Laveur, que vous pouvez entendre toute cette semaine sur Canal B à 10h, puisque c'est l'un des deux disques coup de cœur pour les radios de la Ferrarock. Dans la session info-concert d'aujourd'hui, on fait comme dans l'émission de mardi, on va du côté de Binic les 24, 25 et 26 juillet pour la nouvelle édition du Binic Folks Blues Festival proposé par la Nef des Fous. On va débuter par un groupe qu'on ne présente plus normalement, les Cosmic Psychos, qui au début des années 1980 proposaient un mélange punk rock, heavy rock and roll des plus réjouissant. On les écoute avec justement l'un de leurs plus fameux morceaux, Lead Me Astray, Cosmic Psychos, à voir à Binic cet été. Après les Cosmic Psychos, on écoutait à l'instant les excellents TV Repairmen qui nous viennent d'Australie. Eux aussi, un groupe plus jeune hein, qui balance ses influences entre eggpunk et puis garage rock et power pop. C'est vraiment très très bon. Vous écoutiez à l'instant le titre Bad News, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont au programme donc du festival Binic Folks Blues les 24, 25 et 26 juillet prochains. On y reste avec un groupe peut-être un peu plus musclé encore, les Public House. On les écoute maintenant avec un morceau, un single tout récemment paru pour le groupe australien Twist the Knife. Ils viennent de Melbourne.
What you trying?
Si vous avez adoré et que vous adorez toujours Emil and the Sniffers, vous allez forcément raffoler de Frenzy avec deux E à la fin. Rencontre entre la Crète et l'Australie pour un grand écart punk hardcore et garage rock des plus survitaminés, comme vous l'entendiez avec ce morceau Hyperactive. On va réduire un petit peu le tempo et puis changer d'ambiance. Là, on est plus dans un côté garage 60s, très classe, un peu pop aussi, très élégant. C'est les Straight Arrows qu'on écoute maintenant avec le morceau Shop Window. Eux viennent directement de Sydney. Les infos concerts et l'émission Le Grand Tout du jour se termineront juste après avec les Frenchies. Ils viennent de Loire-Atlantique, Butterfly Bulldozer. Et là, on attend un album à venir très très bientôt pour une rencontre entre post-punk, garage, psyché, des plus réussis. La preuve avec le morceau qui suivra tout à l'heure, le morceau de Straight Arrows, ce sera Thanks Letter, un des singles qui annonce l'album à venir très très bientôt. Retrouvez playlist et écoute sur canalb.fr. Nous on se retrouve jeudi pour une nouvelle émission où on parlera encore une fois du Festival National du Film d'Animation. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
Was waiting to go, but the crew is incomplete. Spaceship.